Les quatre colonnes, la chronique qui décrypte l'actu sur Radio Immo.
À la une des quatre colonnes cette semaine, la transformation de bureaux en logement. Après un long marathon de plus d'un an, la proposition de loi portée par le député centriste de l'Ain Romain Daubier et visant à faciliter les opérations de transformation de bureaux en logement a été adoptée le 20 mai en commission mixte paritaire et a été votée définitivement à l'unanimité ce mardi à l'Assemblée nationale, puis au Sénat ce jeudi matin. Ce texte, tant attendu par les professionnels des promoteurs immobiliers et la Fédération des entreprises de l'immobilier, la FEI, avait le soutien de la ministre du Logement, Valérie Létard, qui a fait de la transformation de bureaux vacants en logement l'un des axes de sa politique. Pour l'anecdote, la ministre n'était pas présente ce mardi sur le banc du gouvernement au moment du vote des députés. Elle était en déplacement avec le président de la République, Emmanuel Macron, dans le Nord, pour évoquer le renouveau du bassin minier. Au moment où la France entière est frappée par une crise du logement quasiment sans précédent, tout le monde est d'accord pour dire que les bureaux vacants représentent un important gisement pour la réalisation de logements, rien qu'en Île-de-France. D'après les derniers chiffres d'Immostat, le groupement d'intérêt économique GIE indépendant réunissant BNP Paribas, CBRE, Cushman Wakefield, Jones Lang LaSalle, 5,64 millions de mètres carrés de bureaux étaient inoccupés à fin 2024 en Île-de-France, soit plus de 10% du parc tertiaire total. On l'a bien compris, le potentiel existe, mais plusieurs freins restent à relever. C'était une alerte encore de Nadia Bouyer, directrice générale d'Action Logement, chargée par le gouvernement d'un groupe de travail avec Xavier Lépine, président de l'IEIF, sur la question du financement. Romain Daubier, député du groupe Modem de l'Ain, circonscription de Miribel, commune de 11 000 habitants, ancien maire de Montluel et avocat de profession, réfléchit à cette idée depuis plus d'un an. Romain Daubier.
On a tous fait le constat qu'il y avait beaucoup de bureaux qui étaient libres, que ça soit en Île-de-France ou partout sur le territoire, qu'il y a également des méga-projets. Le projet peut-être le plus connu, le plus emblématique, c'est le nouveau siège de Total Energy à la Défense qui va libérer encore plus de bureaux. Et tout le monde a bien compris que depuis la crise sanitaire de 2020, il y avait eu un changement de travail par rapport au télétravail, par rapport à la modularité des postes. Et aujourd'hui, toutes les personnes sachant qu'on a pu auxquels on avait pu prendre des contacts, nous expliquent au même nombre de personnels, à ISO personnel, ils ont besoin aujourd'hui de 30% de moins de surface de bureaux. Et on se rend compte également que les bureaux changent. À une époque, on voulait peut-être des bureaux où on allait en voiture avec un parking, avec le nom des directeurs qui flattaient l'ego. On savait qu'on était directeur, qu'on avait notre place avec notre nom sur le parking. Maintenant, il y a toute une génération qui veut vivre, et notamment de nouveaux collaborateurs, qui veulent vivre en centre ville, pouvoir n'avoir pas de voiture, pouvoir avoir une salle de sport à côté de leur lieu de travail. Et il y a aujourd'hui une grosse mutation de tous les bureaux qu'on a pu faire dans les années 80 et après.
Pourquoi ce fut un long marathon, cette PPL ?
Il y a déjà des règles à respecter et à l'Assemblée nationale et au Sénat, un règlement. Moi, je suis avocat de formation, je respecte les règlements et il y aura échappé à personne qu'il y a eu des changements de gouvernement, des dissolutions, également une dissolution qui a retardé de pratiquement d'un an le texte puisque la commission mixte paritaire, la réunion entre les députés et sénateurs initiales était en juin 2024 et nous sommes en juin 2025 et il y a un embouteillage de textes. C'est normal parce qu'il y a des gros sujets régaliens à traiter, des gros sujets financiers, et les règles de planification de l'Assemblée nationale font qu'il y a finalement peu de fenêtres de tir pour que des textes puissent aboutir.
Depuis, vous avez rencontré plusieurs ministres du logement depuis l'élaboration de cette PPL.
C'est une loi qui aura vu trois ministres du logement. C'est toujours mieux d'avoir le soutien du ministre, quelle que soit la qualité d'ailleurs du parlementaire, quand on veut porter un texte transpartisan qui se veut rassembleur, et également la difficulté technique, puisque les ministères ont plus de moyens juridiques, administratifs, pour faire la loi la moins disante possible, la plus opérationnelle, avec la moins de faiblesse et qui puisse être mis en action tout de suite.
Est-ce que d'après vous, les professionnels du logement, les promoteurs, les architectes vont être enfin réjouis de cette proposition de loi ?
Alors, j'avais fait un certain nombre, dans le cadre de la préparation de ce texte, d'auditions, notamment FPI-FEI, qui sont les deux syndicats représentatifs des promoteurs, un plutôt habitation, l'autre plutôt bureau, mais c'est pas toujours vrai, parce qu'après, il y a des histoires parmi les promoteurs. Ils attendent ce texte. Ils auraient même attendu éventuellement des bonus financiers. Mais après, chacun connaît que l'argent public, ce n'est pas une matière première qui est disponible de manière illimitée. Et en tout cas, ça va permettre de créer du logement, d'avoir la surface de plancher tout de suite disponible, de limiter les recours, puisque les bâtiments sont déjà là. Et ça va également donner des portes de sortie à certains gros propriétaires fonciers, je pense notamment à des SCPI qui ont des bureaux vacants et qui ont dû ces derniers trimestres et semestres dégrader la valeur de leur parc et qui ont parfois un parc avec un taux de vacances important. Donc c'est une porte de sortie qui peut permettre de faire du logement.
Vous pensez par exemple à quel secteur en métropole? On pense tout de suite en Île-de-France à la Défense.
Alors, il y a tous les secteurs sont concernés. Moi, j'ai été maire d'une commune de 7000 habitants dans l'Ain et j'étais concerné par un ancien bureau d'experts comptables en centre-ville où c'était l'origine de l'article 7 de ma loi pour revenir sur l'anonymité du changement de destination pour transformer du bureau en logement. Et vous avez partout parfois des locaux qui étaient plus adaptés pour diverses raisons. Vous pouvez en avoir en centre-ville, dans des petites communes. Vous avez également, qui peut être concerné par cette loi, des anciens bureaux ou bâtiments administratifs, peut-être de la Banque de France, peut-être d'anciennes directions locales d'administration. Je pense à des postes qui ont pu fermer, je pense à des gares SNCF parfois, où il n'y a plus de guichets publics. Donc il y a beaucoup d'anciennes trésoreries, beaucoup de locaux qui peuvent rentrer. Donc il y a effectivement nombre de mètres carrés de bureaux, une grosse prédominance de l'Île-de-France, mais pas que. Mais pas que, c'est une loi, c'est pas une loi pour les franciliens, c'est une loi vraiment pour toute la France, pour l'Île-de-France, mais également la France des territoires que je représente.
Et concrètement, à partir de quand les utilisateurs pourront s'appuyer sur cette loi?
Dès qu'elle sera votée par les sénateurs conformes, donc a priori jeudi matin, si tout va bien.
Est-ce que ça peut permettre de résoudre la crise du logement?
Alors, j'ai toujours dit, que ça soit dans l'écriture, que ça soit de ma loi, que ça soit également en commission, que ça soit également quand je suis monté au perchoir à chaque fois que cette loi a été appelée, c'est pas une loi miracle qui vise à tout régler les problèmes du logement. Les solutions simples, rapides, qui ne coûtent pas cher, elles n'existent pas. Elles n'existent pas. C'est une brique parmi tant d'autres par rapport à la question du logement qu'on a en France. Il y a d'autres moyens, mais c'est un moyen parmi d'autres. Et je crois en la multiplication de ces petites solutions concrètes et qu'on peut mettre en place sans décret d'application qui sont efficaces tout de suite pour améliorer la situation. Après, il y a une augmentation de la population, il y a une baisse du nombre de personnes dans d'une même famille, il y a un allongement de la vie, il y a plus de divorces également, il y a de plus en plus également de gens qui ont des doubles résidences avec avec des obligations professionnelles la semaine et une résidence ailleurs. Donc le problème du logement est un problème structurel aussi, sans pour autant obérer qu'il y a un problème également qu'on ne peut pas transformer tous les terrains agricoles et tous les terrains naturels de France en habitat, parce que le sujet de la souveraineté agricole est un vrai sujet.
Maintenant que la loi va être bientôt promulguée, les experts de l'immobilier en sont convaincus. Ce n'est qu'à partir de la fin de l'année prochaine que les promoteurs et investisseurs vont s'embarquer sur l'ensemble du territoire dans la transformation de bureaux en logement. Et pas seulement les majors comme Bouygues, Vinci et Eiffage, mais aussi des PME. Et de faire attention à un point essentiel, s'accorde à dire Xavier Lépine, ancien dirigeant de la Française et fondateur de Néoproprio, société des nouveaux propriétaires. Attention, dit-il, de ne pas faire du mauvais logement et de se louper grave, comme diraient mes enfants, car on n'a pas le modèle économique permettant de le faire. Tout le monde est alors prévenu. Pour se lancer dans cette voie, il n'y a plus qu'à.
Les quatre colonnes, la chronique qui décrypte l'actu sur Radio Immo.